Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter Radio Orient, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point, actualité sur la situation à Gaza. Donald Trump a assuré que ses alliés au Moyen-Orient et autour étaient prêts à envoyer à sa demande des troupes dans la bande de Gaza pour redresser le Hamas, selon ses mots, s'il ne mettait pas fin à ces violations de l'accord de cessez-le-feu. L'ex-président Nicolas Sarkozy a été incarcéré ce matin à la prison de la Santé à Paris, près d'un mois après sa condamnation. Une première dans l'histoire de la République. C'est notre dossier du jour à suivre. Ni abrogation, ni suspension, mais seulement un décalage et peut-être bientôt un référendum. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites. Mais le ministre de l'Intérieur, Sébastien Lecornu, parle bien, lui, de suspension qui serait ajoutée au budget de la Sécurité sociale. Et on débute ce journal par l'actualité au Proche-Orient sur la situation à Gaza. Le vice-président américain J.D. Vance est actuellement en Israël à l'heure où Washington accentue ses efforts diplomatiques. Et Donald Trump a assuré que ses alliés au Moyen-Orient et autour étaient prêts à envoyer à sa demande des troupes dans la bande de Gaza pour redresser le Hamas, selon ses mots, s'il ne mettait pas fin à ses violations de l'accord de cessez-le-feu. Et Emmanuel Macron s'est exprimé sur ce cessez-le-feu. Il a estimé qu'il était très fragile et a appelé à la réouverture des points d'entrée vers le territoire palestinien. Une urgence absolue, selon ses mots, pour faire entrer l'aide humanitaire. Et la branche armée du Hamas a annoncé plus tôt dans la journée qu'elle rendrait aujourd'hui à 18h les dépouilles de 2 otages sur les 15 qui sont encore détenus dans la bande de Gaza. Dans le reste de l'actualité internationale, en Tunisie, une grève générale régionale a lieu aujourd'hui à Gabès, à l'initiative de l'Union Générale Tunisienne du Travail, un mouvement qui vise à dénoncer la poursuite des activités polluantes du groupe chimique tunisien face à la dégradation alarmante de la situation environnementale dans la région. Et dans l'actualité en France, il s'agit d'une première dans l'histoire de la République. L'ex-président Nicolas Sarkozy a été incarcéré ce matin à la prison de la Santé à Paris, près d'un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. Il a immédiatement déposé une demande de mise en liberté, selon son avocat. C'est notre dossier du jour à suivre. Et enfin, ni abrogation, ni suspension, mais seulement un décalage et peut-être bientôt un référendum. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites. Mais il a été contredit à l'Assemblée nationale par Sébastien Lecornu, qui a annoncé que la suspension serait ajouté au budget de la Sécurité sociale. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Et c'est une première en France. Un ancien président de la République est en ce moment derrière les barreaux. Nicolas Sarkozy a été incarcéré ce matin à la prison de la Santé à Paris, près d'un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans le procès libyen. Et on fait le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
Et oui, une première en France, vous l'avez dit, mais aussi une première au sein de l'Union européenne. À peine entré en prison, Nicolas Sarkozy a déposé une demande de mise en liberté en attendant son procès en appel. Ses avocats qui ont qualifié son incarcération de honte, ce qui suscite la controverse, notamment au sein de la droite et de l'extrême droite, c'est le mandat de dépôt à effet différé, c'est-à-dire avant l'examen de l'appel. Il faut savoir que c'est le cas de 25 000 détenus en France. Pour les juges, cela est justifié par la gravité exceptionnelle de faits de nature à altérer la confiance des citoyens. Le 25 septembre dernier, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'ancien président à 5 ans de prison. Il a été reconnu coupable d'avoir sciemment laissé ses collaborateurs rencontrer à Tripoli un dignitaire du régime de Muammar Kadhafi pour discuter d'un financement occulte de sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy se dit innocent et affirme, selon son propos, que la vérité triomphera.
Et quelles sont ses conditions de détention ?
Alors, l'ancien président de la République est écroué dans une cellule de 9 mètres carrés à l'isolement et non pas au quartier qualifié de VIP. Il s'agit en réalité du quartier pour personnes vulnérables. Ce dispositif doit lui permettre d'éviter tout contact avec d'autres détenus. Alors, dans sa cellule, il y a un lit, une place, c'est l'eau au sol. sol, ainsi qu'une douche, des toilettes. La cellule comporte aussi un petit bureau, une plaque de cuisson, un élément fondamental par rapport aux autres détenus. C'est bien entendu le fait que l'ancien chef de l'État est seul dans sa cellule. Il a accès aux cours de promenade, toujours seul, deux fois par jour, ainsi qu'à une salle d'activité. Alors combien de temps Nicolas Sarkozy restera-t-il dans cette prison ? Eh bien, pour la demande de mise en liberté, la justice a 2 mois pour trancher, même si le délai devrait être plus court.
Et François-Xavier, il est important de souligner que l'incarcération de Nicolas Sarkozy s'est faite sur la base d'une mesure qui a été votée en 2019 à l'initiative de la majorité présidentielle.
C'est vrai, et malgré cela, Emmanuel Macron, qui a reçu Nicolas Sarkozy vendredi, a soulevé ce point sur le réseau X. Le président de la République juge, selon ses mots, que dans notre état de droit, la présomption d'innocence comme le droit au recours doivent toujours être préservés. Ce rendez-vous entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy est critiqué à gauche. Il relève de la pression sur la justice pour le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Quant au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, il a défendu sa volonté d'aller voir Nicolas Sarkozy en prison. Il évoque un devoir de vigilance pour s'assurer de la sécurité de l'ex-chef de l'État. Il assure que cela n'atteinte en rien à l'indépendance des magistrats. Le ministre répondait au plus haut procureur de France, le procureur général près la Cour de cassation. Rémy Heitz estime qu'une telle visite serait de nature à poser un obstacle de sérénité et que cela risquerait de porter atteinte à l'indépendance des magistrats.
Merci beaucoup François-Xavier pour toutes ces précisions. Et notre second dossier du jour est consacré à l'évolution positive en perspective dans les relations entre la France et l'Algérie. Selon les mots du nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, il faudra à un moment reprendre le dialogue avec les Algériens sur les questions de sécurité et d'échange d'informations. Laurent Nunez, pour qui la relation entre Paris et Alger dépend largement du Quai d'Orsay. Pour Rachid Temal, sénateur PS et président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat, un retour à l'apaisement est nécessaire entre les deux pays.
Je crois que c'est, vous le dites vous-même et vous avez raison de le dire, la vision de Bruno Retailleau qui, sur les relations entre la France et l'Algérie était surtout, je crois, teintée d'enjeux franco-français. Bon, et je crois que le nouveau ministre de l'Intérieur a raison d'essayer de redonner de la perspective. Mais je le dis, je crois qu'aujourd'hui, s'il revient aux deux chefs d'État et en l'espèce le président de la République française, c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir. Et moi, je l'ai dit à plusieurs mois de cela, je crois qu'aujourd'hui, seul un échange direct entre les deux présidents pourra faire avancer la situation. Je note également que le Premier ministre, qui a œuvré précédemment sur les questions de défense, peut être également une porte d'entrée intéressante. Ne descendons pas, je crois, avec tout le respect que j'ai pour les différents ministres, je pense qu'à un moment donné, d'abord, il y a une question d'État à État. Donc je crois que c'est à Emmanuel Macron aujourd'hui, avec son homologue algérien, de retrouver les fils de la discussion.
De quelle marge de manœuvre dispose-t-il pour retrouver, comme vous dites, les fils de la discussion ? Parce que pour cela, il faut une volonté commune.
Je crois que, par exemple, essayer d'avoir une rencontre entre les deux chefs d'État me paraît être de bon niveau. Ce qui veut dire préparer les choses, mais je crois que c'est ce niveau-là. Et je crois que le président Tebboune l'avait dit, que ce qui l'intéressait, lui, c'était directement la relation avec le président Emmanuel Macron et personne d'autre. Donc je crois que c'est le bon niveau sur lequel il faut travailler. Et puis après, il y a aussi le ministre des Affaires étrangères qui peut, lui, jouer de son rôle. Mais je crois que la relation entre la France et l'Algérie, elle n'est pas que sur un segment de l'action gouvernementale. Ce n'est pas que la sécurité, je l'ai évoqué tout à l'heure. La question des agriculteurs français qui n'arrivent plus à vendre, par exemple, des bovins ou, par exemple, du blé ou des céréales à l'Algérie. Vous voyez ? Bon. Et je peux comme ça multiplier l'exemple. Vous voyez bien qu'il faut bien quelqu'un qui coordonne l'ensemble, et ça ne peut pas être tel ministre sectoriel.
Lorsque l'on discute avec le président, par exemple, de la Chambre de commerce franco-algérienne, cette personne nous dit qu'il y a une volonté de la part des deux pays d'échanger, de commercer, mais que malgré tout, ces tensions créent un ralentissement. Ça aussi, c'est un élément important qu'il faut combattre.
Tout ça, c'est une réalité. Je crois qu'il faudrait que chacun comprenne que les relations entre l'Algérie et la France, certes, il y a la question même, mais il y a aussi une réalité actuelle. Et vous avez, moi, j'ai été le premier homme politique français à m'être rendu en Algérie au début de la crise, et notamment avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-algérienne. J'ai rentré des chefs d'entreprise installés en Algérie. Des Français, des Algériens, des franco-algériens. Tout le monde dit la même chose, à savoir qu'il y a une dimension économique majeure entre les deux rives de la Méditerranée, entre la France et l'Algérie.
Vous venez d'écouter Rachid Temal, sénateur PS et président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était les dossiers du jour. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.